RTF. Ça fait 2 ans. 2 ans que je me dis que je devrais faire l'épisode d'aujourd'hui. Et voilà, j'ai été victime de procrastination. Ça vous arrive, vous, de procrastiner? Souvent? Parfois? Jamais? Qui d'entre vous a dit jamais?
Il y a des gens qui vous disent non, alors moi je procrastine jamais. Puis en général, je leur demande ah, puis à quand remonte votre dernier détartrage dentaire? Et puis voilà, en général, les gens reconnaissent que oui, bon, en fait, ils savent qu'ils devraient le faire, mais ils ne l'ont pas encore fait. Puis finalement, on procrastine toutes et tous.
Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode qu'on vous livrera demain ou après-demain, ou tout de suite. Microsciences. Un podcast de la RTS. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On affronte cette vilaine habitude avec Shekina Rocha. Elle est docteure en psychologie et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Elle a aussi écrit le livre « 24 clés pour vaincre la procrastination ». Mais avant cela, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est au juste, la procrastination.
Si vous voulez, il y a plusieurs manières de la concevoir. Moi, la manière dont je l'approche, en fait, c'est un manque de motivation temporaire à effectuer des tâches spécifiques.
Spécifiques, pas toutes les tâches. Parce que c'est assez rare, en tout cas pour moi, de procrastiner lorsqu'il s'agit de manger un morceau de chocolat ou de commencer un bon roman.
Ça peut être généralisé et concerner un grand nombre de tâches ou de sphères de vie, mais il y a cette idée que c'est vraiment quelque chose normalement de temporaire et puis d'assez défini, des tâches particulières.
Un manque de motivation, c'est ça. Mettre les vieux papiers au recyclage, vider le lave-vaisselle, écrire une xème chronique sur le Covid, payer les factures. Ah oui, ranger les chaussettes et trouver des partenaires aux chaussettes solitaires. Et répondre à ce mail qui me chiffonne un peu. Ce n'est pas très motivant, en effet. Mais à la fin, il va bien falloir que je m'y colle à tout ça. Alors pourquoi repousser l'échéance?
Pour tout plein de raisons. L'idée, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas motivé? Et puis du coup, ça pose la question de quoi est-ce qu'on a besoin pour être motivé à faire une tâche? Et puis, dans la littérature, le consensus, c'est que pour être motivé, on a besoin d'avoir un but. Ce but, il doit être clair, il doit être important et il doit être prioritaire par rapport aux autres buts qu'on pourrait avoir en même temps.
Mon but, c'est d'être à jour. Sur mon administration professionnelle et privée, avoir un appartement rangé, une vie en ordre, quoi. Et apprendre à jouer de la flûte.
Et puis, il faut aussi qu'on ait l'impression qu'on va pouvoir atteindre ce but, à la fois parce qu'on a les ressources personnelles de le faire, les capacités, mais aussi que notre environnement nous le permet.
Je vais laisser la flûte de côté alors. Mais qu'est-ce qui me bloque ? L'ampleur de la tâche?
Oui, alors effectivement, il y a cette idée d'un niveau de défi optimal. Des fois, si le défi il est trop grand, ben on va procrastiner parce qu'on a peur de s'y confronter. Par exemple, si vous vous dites, ben moi j'aimerais écrire un roman.
Mais quelle bonne idée!
J'entends beaucoup de gens qui ont cette idée d'écrire un livre un jour. Mais si l'objectif est vu comme tellement gros, tellement important, tellement plein de sens, qu'en fait il en devient intimidant. Et puis du coup, on repousse le moment parce qu'on n'a pas envie de se confronter à l'échec. Et dans d'autres cas, en fait, les tâches sont vues comme tellement triviales et tellement pas intéressantes ou importantes que finalement, on va les procrastiner, mais plus parce qu'on manque de stimulation à les faire, on manque de défis à les faire que parce qu'elles sont trop imposantes.
C'est un peu le cas avec beaucoup de tâches que je dois effectuer. Soit c'est énorme, soit c'est pas monstre intéressant. Mais tout cela, c'est aussi une question d'énergie.
Et puis enfin, il faut avoir des émotions qui vont nous donner l'énergie de se mettre en action.
Motivation, défi, énergie.
Quand on procrastine en général, c'est qu'il y a un de ces points qui fait défaut. Ils peuvent tous faire défaut, mais en général, il y en a en tout cas un ou deux qui vont être manquants. Par exemple, notre objectif peut manquer d'importance. Si on pense, je ne sais pas, à descendre les skis à la cave, c'est peut-être pas la chose la plus importante pour nous, et puis du coup, on va le remettre à plus tard.
Ah non, ça non. Les skis dans l'appart, non. Et là, la motivation, elle est claire. Pas envie d'avoir ça qui traîne. Mais au-delà de l'envie, Il y a peut-être un fond d'angoisse dans certaines tâches que l'on remet au surlendemain.
Souvent, on a le sentiment qu'on ne va pas réussir et puis c'est quelque chose qui va nous empêcher de nous lancer parce qu'on n'a pas envie de se confronter à l'échec. Ou alors, on peut éprouver des émotions comme l'anxiété ou alors l'absence totale de joie à l'idée de faire une tâche ou d'accomplir une action.
L'absence de joie, je vois, quand il s'agit de réconcilier des chaussettes en séparation de corps. Mais l'anxiété, moi, je me demande si c'est la source de certaines de nos procrastinations ou la conséquence.
L'anxiété, ça peut nous motiver aussi. Par exemple, si vous êtes anxieux d'avoir des frais de rappel pour votre déclaration d'impôt, ça peut être un incitatif à le faire. Par contre, si votre degré d'anxiété est tellement énorme que finalement il en devient paralysant, ben ça peut être un des motifs de procrastination. Si on a une tâche qui est anxiogène de base, ben on va être moins tenté de se lancer dedans parce qu'on va avoir des inhibitions à le faire. Et puis en même temps, ben, le fait de constater qu'on procrastine, ça nous fait nous dire qu'on n'arrive pas à faire les choses à temps et ça suscite souvent de l'anxiété, notamment parce que les tâches qu'on procrastine en général ont tendance à se répéter ou à revenir sous une autre forme un peu différente. Donc comme on procrastine, on ne se donne pas les moyens de développer des compétences ou de se dire « mais en fait, je peux le faire ». Et puis du coup, quand la tâche se représente, ben, on a toujours ce sentiment qu'on n'est pas capable de le faire.
C'est la première fois que je vois ce lave-vaisselle. Je n'ai aucune idée de la manière dont il faut le vider. Ouais, ça passera pas, hein. Non mais sérieux, c'est quand même satisfaisant de classer certaines tâches. Une fois que c'est fait, c'est fait.
Mais on a vraiment cette distinction entre faire la tâche et les résultats. Et par exemple, la satisfaction qu'on peut avoir après coup, ça peut être une raison de faire la tâche, donc un objectif qu'on peut poursuivre. Sur le moment, c'est vraiment du désintérêt, de l'ennui, etc. Et puis ça va prendre le dessus par rapport à ça. Ou alors, ce qui est susceptible d'arriver, c'est qu'il y ait un conflit entre le but de ranger et d'autres buts qui sont peut-être plus stimulants ou intéressants à court terme, comme par exemple aller scroller les réseaux sociaux ou alors regarder un dernier épisode de sa série Netflix.
Une équipe de scientifiques de l'Institut du cerveau à Paris a décrypté comment notre cerveau se comporte lorsque nous procrastinons. Pour le cerveau, le plaisir là maintenant est plus important que le plaisir qui viendra peut-être un peu plus tard. Et puis ce cerveau a tendance à évaluer le coût de l'effort. Un effort maintenant pour une récompense plus tard, c'est pas son truc. Il préfère se dire que ça lui coûte moins de remettre au surlendemain ce qui peut être fait demain. Vous voyez le truc. Donc, c'est pas ma faute. C'est mon cerveau qui est flemmard.
La flemme, c'est souvent associé avec le fait finalement d'avoir peu d'objectifs ou alors d'avoir beaucoup de fatigue. Enfin, souvent, on mélange un peu les deux dans la flemme. Et puis, c'est vrai que les facteurs biologiques, ils vont entrer en compte. Typiquement, notre motivation, elle est sous-tendue par notre capacité à pouvoir réagir. Et puis, si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas assez mangé, ben, c'est tous des facteurs qui vont rendre plus difficile de se mettre à l'action.
Alors là, c'est pas tout à fait de la flemme. C'est vraiment une histoire de motivation. Ou alors, peut-être que lorsque je procrastine, au fond, j'ai tout simplement besoin d'une pause.
La procrastination, en fait, par définition, on a l'idée que c'est pas volontaire. Dès le moment où on dit « ah oui, non mais je fais une pause », il y a cette idée de prendre une décision qu'on ne va pas faire maintenant. Tandis que la procrastination, il y a cette idée qu'on aurait dû le faire ou qu'on devrait le faire, mais qu'on n'est pas en train de le faire.
Tout le monde procrastine. Moi, ça me rassure. Mais quand même, il doit y avoir des procrastinateurs et des procrastinatrices qui sont pires que moi.
Je ne saurais pas dire s'il y a une sorte d'épidémiologie, mais comme ça touche finalement tout le monde, ça peut toucher différentes sphères de vie. Les études, c'est souvent un bon exemple aussi parce que les résultats sont assez concrets. On a des échéances. Après, il y a des choses qu'on procrastine dans la vie qui n'ont pas d'échéance. Par exemple, choisir est-ce que je m'engage ou pas dans une relation, est-ce que je fais mon contrôle ou pas chez le dentiste. Là, on a beaucoup plus de flexibilité et puis, en fait, on se rend peut-être moins compte si on a procrastiné ou pas.
Alors, autant se faire à l'idée. Je procrastine et puis c'est tout, c'est comme ça, voilà.
forcément, le fait de procrastiner devient une excuse et on va dire oui, non, mais moi j'ai tendance à procrastiner, donc c'est pour ça que j'ai pas fait les choses. On peut tout à fait imaginer toutes sortes d'excuses pour le faire. Finalement, on procrastine tous certaines choses avec plus ou moins d'excuses. Je dirais que peut-être un des éléments clé de la procrastination, c'est qu'en général, ça suscite un sentiment de culpabilité. Donc, non seulement on procrastine, mais en plus, on culpabilise. Et puis, la culpabilité a été associée au fait de procrastiner encore plus. Donc, non seulement on procrastine, mais on s'en veut. Et le fait de s'en vouloir, ça va nous conduire à encore plus procrastiner.
Mince ! Alors, il faut que j'arrête de procrastiner, que je fasse ce que je dois faire, il le faut.
Dès qu'on entend les gens dire « je dois faire ça, il faut que », on est dans quelque chose où on a l'impression que ce n'est pas une motivation qui vient de l'intérieur, que c'est vraiment imposé par l'extérieur. Puis il y a plus de chances qu'on procrastine quand on a ce type de discours que quand on dit « ah oui, j'aimerais vraiment faire ça ou c'est important pour moi parce que ».
Oups, encore raté. Mais ce fond de culpabilité là, il ne pourrait pas me venir en aide, là, tout à coup ?
En fait, ça va surtout toucher le sentiment qu'on peut y arriver. Dès le moment où on se dit « Ah, mais en fait, j'ai procrastiné », ça veut dire « Je ne suis pas capable de prendre ma vie en main, de faire les choses ». Donc, on touche vraiment à ce sentiment qu'on a les capacités pour faire les choses à temps, par exemple.
Tout ceci me paraît urgent à démêler. Plus urgent que l'écriture d'un épisode de ce podcast, que le lave-vaisselle, que les chaussettes en quête de leur âme sœur. La procrastination, ce n'est pas une maladie. Certes, elle provoque une certaine culpabilité et un inconfort. Ce n'est pas non plus un état d'être. C'est entre les deux. Peut-être que c'est hautement humain. Peut-être que nos ancêtres, au fond des cavernes, étudiaient tous les détails d'un silex avant de partir à la chasse ou de planter quelques graines. Peut-être que les chasseurs-cueilleurs étaient en fait des chasseurs-glandeurs. Et peut-être que c'est pas grave.
Alors, je pense que ça dépend de la mesure à laquelle vous procrastinez. Il y a un moment où ça peut devenir vraiment un fardeau. Et puis là, on peut considérer que ça devient grave dans le sens où finalement, certaines personnes ont l'impression que leur vie leur échappe entre les mains parce qu'elles repoussent à plus tard tout ce qui est important pour elles. Puis là, on peut dire que c'est grave. Et peut-être ça dépend aussi de ce qu'on procrastine. Par exemple, si on procrastine les contrôles médicaux parce qu'on a peut-être peur du contexte médical de base, bon, là, ça peut avoir des conséquences qui sont plus graves aussi.
Et alors, à quel moment faut-il s'en inquiéter ? Faudrait-il que j'arrête cet épisode pour m'inquiéter d'avoir procrastiné hier ?
Je pense que c'est vraiment le moment où on se rend compte que c'est généralisé à toutes nos sphères de vie. Le moment où on se rend compte que ça entrave notre fonctionnement, par exemple, avec les autres, que ce soit au travail ou dans notre sphère familiale. Typiquement, si on est dans un état déprimé, ça va avoir un impact sur notre capacité à pouvoir nous fixer des objectifs ou à évaluer nos compétences. Et puis, on va plutôt avoir tendance à éprouver des émotions négatives. Donc là, la dépression, ça peut être un facteur qui fait qu'on va tout procrastiner, par exemple. Et de même, si par exemple, vous avez une mononucléose qui fait que vous êtes très fatigué, quand vous êtes fatigué, vous n'avez plus l'énergie pour réaliser les choses non plus. Ce n'est pas forcément un problème de procrastination, c'est vraiment un problème biologique qui fait que vous avez de la difficulté à faire. Donc je pense vraiment qu'il y a des choses, au moment où si on a pu écarter toutes les autres causes, ce n'est pas un manque de sens, ce n'est pas un manque de sentiment de compétence, ce n'est pas une question d'émotion. On peut se demander si ce n'est pas à la limite biologique. Et puis c'est là où on peut s'inquiéter.
Voilà, il est 3 heures plus tard et j'ai écarté toutes les autres hypothèses. Je suis arrivée à la conclusion que j'ai bien procrastiné. J'ai vérifié mes mails et je me suis intéressée à un nouveau vaccin pour un sujet potentiel. Mon appartement est super bien rangé, mais ça, c'est une autre histoire. C'est étonnant quand même, ce phénomène. Y aurait-il des tâches ou des actions que personne jamais ne procrastine ?
C'est une très bonne question. Ce qui me vient à l'esprit, mais peut-être qu'il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus longtemps, c'est de regarder, quand on a reçu une notification sur notre téléphone, de regarder de quoi il s'agit ou le contenu du message. Mais même, en fait, je pense qu'il y a quand même des gens qui procrastinent. Non, je pense que, en fait, n'importe quelle tâche peut être perçue comme ennuyante ou comme manquant d'intérêt ou comme beaucoup trop angoissante ou au contraire pas du tout stimulante et que finalement n'importe quelle tâche peut être procrastinée.
C'est un sacré numéro d'équilibrisme, cette procrastination. Et franchement, parfois, j'aimerais bien en être délivrée. Et peut-être que pour finir mon podcast, je ferais mieux de mettre mon téléphone sur silencieux et redresser mon siège.
C'est vrai que le fait de enlever les tentations, c'est un petit peu la stratégie à laquelle on pense en premier lieu. C'est pour ça qu'on a par exemple beaucoup d'étudiants qui vont travailler à la bibliothèque. C'est un moyen d'être dans un environnement où tout le monde est concentré et puis où on ne peut pas tellement, bon, quoi qu'on peut quand même regarder une série, ou enfin voilà, mais il y a vraiment cette idée de pouvoir enlever les tentations. Mais après, c'est pas suffisant dans le sens où je pense que vous avez déjà remarqué qu'on peut être aussi très créatif dans nos manières de procrastiner. Mm-hmm. Et puis que ben, peut-être que vous n'avez pas votre téléphone sous le main, mais que c'est le moment où vous décidez de compter. Est-ce qu'on peut vraiment, relever le défi de se lécher le coude qui est censé être impossible. Enfin voilà, on peut avoir toutes sortes de stratégies très créatives pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. Donc ça marche, mais jusqu'à un certain point, on va dire.
Je suis dans la cabine R69 à la radio et j'hésite à compter mes cheveux. Mais je me dis que ça serait peut-être bien qu'une fois pour toutes, je trouve les bonnes stratégies pour arrêter ce genre de truc. Il n'y a pas une pilule anti-procrastination ?
Pour trouver des motivations internes, on ne peut pas donner des solutions génériques. On est vraiment dans le fait de pouvoir personnaliser les tâches pour pouvoir y trouver soi-même un peu plus d'intérêt, de plaisir ou de sens, en fait, ou de défi. Typiquement, si on essaye de donner de l'intérêt au détartrage, on peut se dire « bon, mais après, j'aurai vraiment un beau sourire. » Et puis, du coup, ça va avoir un impact positif sur mes relations. On peut imaginer que voilà, c'est quelque chose qui va donner de l'intérêt.
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus agréable de faire un podcast qu'un détartrage.
Après, on peut essayer de se dire comment est-ce que ça pourrait me procurer des émotions positives, comment est-ce qu'on peut rendre plus plaisant ce détartrage. Puis peut-être qu'on va trouver un charmant hygiéniste dentaire ou une charmante hygiéniste dentaire qu'on va avoir du plaisir à aller voir. Et puis là, c'est une manière d'associer un peu des émotions positives.
Après, ça reste un détartrage.
Ou alors, on peut se dire, bon, en fait, c'est le défi. Non seulement je prends rendez-vous pour le détartrage, mais en plus, je fais un bilan sanguin chez le médecin et un bilan de sport au centre à côté, etc. Donc, on fait vraiment le package où c'est pas seulement prendre soin de ses dents, c'est prendre soin de son corps en entier. Mm-hmm. Puis là, on élève le niveau de l'objectif qu'on vise.
Élever les objectifs. Mon podcast sera entendu par 3 millions de personnes d'ici jeudi. Finalement, ces histoires de procrastination, je me demande si ce n'est pas une question de point de vue et si ce n'est pas la société qui nous pousse à être tout le temps performants. J'exagère peut-être, mais franchement, vous vous êtes déjà posé la question, non ?
C'est vrai qu'on est dans une société où ben, non seulement il faut réaliser des choses, mais en plus il faut que nos motivations à le faire soient nobles ou soient élevées. Typiquement, il y a cette fameuse histoire des trois personnes qui construisent un mur et où on demande au premier « qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « je pose des briques », puis le deuxième il dit « moi je construis un mur », puis le troisième il dit « moi je construis une cathédrale ». Et puis on aimerait que tout le monde, dans chaque tâche de son quotidien, soit en train de construire une cathédrale. Mais en fait, si on regarde au niveau motivationnel, les trois, ils sont en train de travailler. Et finalement, juste faire la tâche, c'est une motivation qui est déjà suffisante sans que ce soit plus noble. Mmh. Après, c'est vrai que si on se rend compte qu'on a de la peine à faire la tâche, ben on peut essayer de trouver du sens. Puis des fois, on ne trouve pas et en fait, on va juste se dire « mais en fait, je ne vais pas le faire ». Mais à ce moment-là, je décide de ne pas le faire. Et puis du coup, on n'est plus dans la procrastination parce qu'on a choisi. Et du coup, on n'est plus dans le fait de le repousser de manière involontaire.
Dans ce monde de culpabilité, on connaît toutes et tous quelqu'un qui est exactement le contraire. Vous savez, la personne qui fait tout à temps. Celle qui semble avoir fait le travail avant même qu'on en ait besoin. L'extraterrestre qui a vidé le lave-vaisselle avant même que vous ayez pensé à le remplir et le mettre en marche. Celle qui avait mis à hier ce qui devait arriver le mois prochain. Eh bien, on les appelle les précrastinateurs.
Oui, c'est ces gens qui en fait font tout de suite, mais mal. Et puis, en fait, alors dans la littérature, on considère pas que c'est vraiment l'inverse de la procrastination. C'est presque un problème à part parce qu'il n'est pas forcément lié à des tâches qu'on aurait tendance à procrastiner en général. Mais ça peut être n'importe quelle situation, on y réagit en se disant ah je vais tout faire tout de suite et puis je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, même si c'est pas bien fait en fait. Mais dans la littérature, les auteurs sont plutôt à dire en fait on n'est pas dans la procrastination et c'est pas l'inverse de la procrastination parce que finalement peut-être c'est pas une tâche qu'on aurait procrastiné, enfin c'est pas forcément une stratégie pour vaincre la procrastination en fait. Ça peut le devenir mais c'est pas dans tous les cas.
Pendant la préparation de cet épisode, j'ai découvert qu'on ne peut pas compter ses cheveux ni se lécher le coude. J'ai répondu à 10 emails, j'ai mangé 3 biscuits ou un peu plus, regardé mon téléphone 138 fois. Et j'ai même trouvé une vidéo pour apprendre à dessiner. Mais finalement, rien de tout cela n'a éclipsé le plaisir que j'ai eu à le terminer.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où va la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Je ne leur laisse jamais le temps de procrastiner. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice qui remet au lendemain seulement ses moments de repos. Jérôme Nussbaum, qui ne laisse jamais de chaussettes solitaires dans son habillage musical. Mathieu Ramsauer, réalisateur dont l'imagination ne procrastine jamais. Et Andrea Glanville, attachée de production, qui attend souvent qu'on s'y mette vraiment. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique, qui prend parfois son temps. Si ce podcast vous plaît, n'attendez pas, diffusez-le sur vos réseaux sociaux préférés et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou PlayRTS. Et si vous voulez sonder d'autres questions, écrivez-nous à microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. À bientôt !